7h, 9h, plus près de toi.
Au revoir.
Mercredi 12 avril 2017. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout a changé. Se lever chez soi, comme dans un pays étrange et étranger. Redécouvrir le quotidien comme un mystère donné. De la nouveauté, de l'étrange, là où il y avait avant des objets habituels, usuels, de la certitude, du rassurant. Sentir au bout de son bras un objet étrange et utile à la fois, 5 doigts, pour saisir, pour caresser, pour prendre, pour pétrir. Oh, quelle jolie idée! Nature, tu es beau! Et puis poser une extension de soi sur le sol froid. Oh, j'ai des pieds, miracle du mouvement! Et puis s'avancer vers toutes ces grâces qu'on appelle des lavabos, des bidets, des baignoires, des cuvettes hydropneumatiques, on appuie, tout disparaît. Et puis, ouvrir cet océan de froid qui habite chez soi, qu'on appelle le frigo. Oh, comme c'est beau! De toutes les couleurs, des aliments sont là. Les ingurgiter, sentir son corps mugir de plaisir, mugir comme une vache ferait meu, meu fait la vache. Et puis, continuer à s'enchanter de ce presque rien, de ce je ne sais quoi. La rue, l'encre de la nuit, la mer du ciel, l'ocre de l'éclairage public. Oh, comme tout est enchanteresse ce matin, comme tout est beau, comme tout est normal, comme tout est différent. S'avancer vers ce carré de verre qui glisse, le métro, le bus merveilleux. Et puis arriver vers ces gens exquis qui nous ressemblent tant et qui sont autres. Ce hurlement, oh, c'est mon patron, merveille, merci, merci d'être là. Merci de me permettre d'habiter à plusieurs cette planète Terre. Quoi, je marche sur du rond, je marche sur une planète, sur un objet qui tourne lui-même autour d'un cercle de feu, lui-même autour de 1000 autres cercles. Le monde est rond, le monde est rond, comme ton corps, mon ange. Très belle journée à vous.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette. Tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour. Voilà, Tito s'installe avec ses petits objets, là. On va voir. Tiens, on va sans doute gagner au tiercé tout à l'heure. Marie Bonisseau, si vous avez la gentillesse de nous dire l'essentiel de ce qu'il faudrait retenir pour ne pas avoir l'air d'un crétin à la cantine tout à l'heure.
La police de Dortmund en Allemagne a retrouvé une lettre de revendication, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur l'enquête. Après les 3 explosions qui ont retenti hier soir près du bus des joueurs de l'équipe de football du Borussia Dortmund, ça s'est passé au moment où le bus partait au stade pour le match contre l'AS Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Un joueur, Marc Bartra, a été blessé au poignet. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. Les enquêteurs se refusent à parler terrorisme pour l'instant. D'après le journal allemand Bild, il s'agirait de bombes artisanales. Sur Twitter, élan de solidarité pour héberger les supporters monégasques cette nuit, puisqu'il reste à Dortmund, car le match a été reporté à ce soir. Et donc, ils ont trouvé un lit cette nuit avec le hashtag Bed for Away Fans, des lits pour supporters en déplacement. L'autre quart de finale aller de Ligue des Champions hier soir, c'est lui déroulé normalement. La Juventus de Turin a mis 3-0 au Barça. Dans le nord de la France, à Grande-Synthe, que faire pour les 1400 migrants sans logement après l'incendie du camp lundi soir? Ils ont dormi dans des gymnases. Le maire écologiste de Grande-Synthe appelle à la solidarité nationale. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a promis qu'ils seraient hébergés et que des départs en centre d'accueil dans toute la France allaient commencer ce mercredi. En Suède, le principal suspect de l'attentat au camion Bélier qui a fait 4 morts à Stockholm a reconnu hier avoir commis un acte terroriste. Cet Ouzbek de 39 ans, aux sympathies djihadistes, a été inculpé et écroué en attendant son procès. Les États-Unis, eux, enquêtent sur une éventuelle complicité de la Russie dans l'attaque chimique contre le village de Khan Cheikhoun en Syrie la semaine dernière. Les analystes sur les blessés ont confirmé qu'il s'agissait bien de gaz sarin, d'après le gouvernement turc. Enquête approfondie aussi réclamée à l'ONU dans un nouveau projet de résolution déposé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis hier. La semaine dernière, un premier texte s'était heurté au veto de la Russie. Et puis, après deux jours de bad buzz, United Airlines mange son chapeau. La compagnie aérienne américaine a fini par s'excuser auprès du passager qui avait refusé de quitter son avion surbooké. L'homme avait été violemment traîné en dehors de l'avion par les policiers. La scène filmée a fait le tour des réseaux sociaux du monde entier. Appel au boycott. United Airlines a même plongé de 3% en bourse, ce qui a fini par convaincre le PDG donc de s'excuser, promettant même d'arranger les choses, car je cite, « il n'est jamais trop tard pour bien faire ».
Oui, la bonne nouvelle.
Une compagnie aérienne américaine qui s'excuse.
Oui, mais vous avez fait plus de temps sur la façon dont le mec a été maltraité. Je veux ma bonne nouvelle.
Ah,
j'ai le temps. D'habitude, vous avez le foot, qui n'est une bonne nouvelle que pour une équipe sur deux. Mais enfin bon.
Arnaud, si la Juventus a été battue.
Arnaud et Marc, on appelle aussi professeur. Qu'est-ce que vous avez quelles sont
les nouvelles?
Oui.
On a découvert un méga virus, un virus gentil. Géant.
Gentil.
Assez gentil. Bah, ouais. Il est trop gros pour attaquer les cellules.
Il s'attaque pas, il renonce.
Il s'attaque pas, il est là.
Il arrive, il fait. Alors au début peut-être. Au début, Arnaud, peut-être le mettre en scène, un peu menaçant. Il est là, il arrive, j'ai fait.
Peut-être pas, il est plus dans des bruits un peu flasques.
Alors là, il est à quelle distance de l'être humain là?
Je sais pas, un mètre.
Il est à un mètre. Alors moi, je suis en train de faire quoi, par exemple?
Je sais pas, peut-être vous lisez le journal.
Alors, j'ai le journal, alors allez-y, j'attends. Tiens, un virus flasque.
Un méga virus.
Alors, là-dessus, on n'est plus qu'à quelques centimètres.
On n'est plus qu'à quelques centimètres.
Et il reste là.
Il reste là. Puis il lit le journal avec vous, derrière.
Voilà,
bon,
ça va.
Oui, ça va.
Bonne nouvelle. Fait... c'est mon Mitterrand.
Tyran,
s'il vous plaît. C'est mon imitation de Mitterrand qui était très populaire dans les années 80. Très demandé pendant les goûters d'enfants. On me disait, allô, c'est l'anniversaire de ma fille. Est-ce que tu peux faire Mitterrand? J'ai dit, et hop, un petit cachet. Et puis on mangeait avec ça.
Vous étiez juste avant Michel. Enfin, vous étiez en première partie.
Bien,
Michel,
à tout de suite.
7h09, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Vous l'avez entendu, le type de Dacia, là?
C'est bizarre comment
pourquoi
ça parle.
Pourquoi il nous parle comme des cons?
Ben oui.
Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai lu des bouquins. On n'a pas me parler comme ça.
Parce qu'il faut acheter de la bagnole.
Ah oui, bah là, c'est, tant que j'en aurais pas acheté, il continuera.
Il sera là.
Ah, c'est ça le principe. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On met le truc des connoisseurs ou pas?
Ah pardon.
Ah oui, ça vous aimez ça. Mais vous n'avez pas de casque, vous ne l'entendez pas.
Mais si, mais je l'ai, je le sens, je le vis.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, cette musique aide, je dirais, à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un truc de propagande pure, c'est ça.
Elle met tout ça dans un écran.
On monte sur un cheval blanc, là, j'ai l'impression.
C'est ça, on y va,
avec nos journaux.
On traverse l'actualité comme
ça. Ça donne envie de faire de la chasse à cour aussi.
Oui, mais c'est. Lâchez le renard en studio. Alors, Marie Missé, qu'avez-vous vu que vous avez envie de partager avec nous ce matin?
Comme d'habitude, le mercredi, je me fonce sur la rubrique science et médecine du monde.
J'ai un coup de cafard avec la phrase, comme d'habitude.
Ah bah, je suis désolée, Edouard.
Ça va?
Je sens que vous enfermez
dans des... qu'il fallait pas...
Je sens que vous enfermez dans des petites habitudes. Je sens que pour aller au travail, vous prenez toujours le même trottoir.
Ouais.
Je sens qu'au comptoir, vous avez votre petite place. Dans le train, si votre place près de la fenêtre, dans le deuxième wagon est prise, vous ne pouvez plus respirer. J'ai l'impression
que
vos petits rituels sont toujours les mêmes. Les 3 bisous quand vous êtes à Arles, 2 bisous à Paris, 4 en province.
L'habitude est la condition de la surprise.
Attendez. Vous pouvez pas me dire des choses aussi fortes comme
c'est,
ça.
Si, c'est beau, c'est beau.
Mais c'est la vérité.
D'accord. Donc, vous voulez dire que sinon, la surprise devient une habitude elle-même.
Et
si
oui,
on a trop,
absolument trop de surprises.
Non, c'est-à-dire qu'on est toujours en hors-piste et à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de route.
Donc, la révolution permanente, ça n'existe pas.
Si, ça existe.
Ça devient une habitude. Mais,
non, pas forcément.
Je crois pas qu'on peut
pas forcément.
J'aurais dû rester chez moi.
Pour écouter tout ça
tout
tranquillement.
Tout ça, mais mieux, on est au chaud, avec de l'eau.
Avec une cigarette truquée.
Truquée.
Oui. Alors, Marie.
Vous êtes sûre?
Non, excusez-moi. Donc, votre habitude le mercredi, c'est de regarder
science
quoi?
Science et médecine.
Science et médecine.
Il y a Le Monde qui sort son supplément.
L'excellent Le Monde.
L'excellent journal Le Monde, avec dedans l'excellente rubrique de Pierre Barthélémy, tous les mercredis.
Excellent.
Aussi, qui s'appelle la rubrique de l'improbabologie.
Qui est aussi fromager,
Pierre Barthélémy.
C'est un homonyme.
Ah bon? Bon,
alors qu'est-ce qu'il a fait?
Aujourd'hui, il relate une étude qui montre qu'il y a une corrélation entre le soleil et les résultats du CAC 40. C'est-à-dire que les traders sont comme tout le monde, quand il fait beau, ils sont plus optimistes et donc les cours
achètent.
De la bourse vont à la hausse. Et c'est indiscutable, apparemment.
Ils sont photosensibles.
C'est faible, mais indiscutable. Ils sont très photosensibles, exactement. Mm-hmm.
Et alors, est-ce que vous pensez que le fait que les élections aient lieu au printemps fait qu'on vote, on a un vote moins frileux,
plus
un
optimiste.
Vote plus enthousiaste, plus optimiste?
Je pense que ça dépend de la météo du jour.
Mais j'en suis convaincu, moi.
Moi aussi. Oui.
Alors, quand il fait trop beau, il y a la fameuse tentation d'aller à la pêche, ouais, plutôt que d'aller voter.
À la plage aussi.
Et quand il fait trop froid, on veut se venger de la météo et on vote contre. Allez, salaud, ils m'ont encore fait froid, tiens, tu vas voir pour qui je vais voter. Voilà, ah, bon entendeur. Très bien, merci Marie. La suite des connoisseurs de plus en plus fort, de plus en plus précis, de plus en plus près de vous, le Thomas Baumgartner.
Oui, il y a une double page signée Clémentine Gallo dans Libération sur la question des garçons de café, leur caractère à Paris en particulier. On se rappelle, c'est cité d'ailleurs dans l'article, ce titre du Gorafi, Paris 2. Le serveur aimable était en fait un imposteur. Pour résumer un peu la réputation, qui n'est pas forcément toujours usurpée, dans cet article, Clémentine Gallo cite un commentaire sur TripAdvisor. Le plus déplorable reste tout de même la qualité du service. Les serveurs sont hautains et très peu disponibles. Après avoir demandé du sucre, le serveur nous l'a jeté sur la table, puis l'a repris quelques minutes plus tard sans nous décrocher un mot.
Il devrait dire quoi?
C'était aux deux magots, apparemment.
C'est déjà bien gentil qu'ils n'aient pas eu du sel.
Voilà, ah c'est oui. 470 aux deux magots.
Qu'est-ce qui vient nous emmerder en France pour se plaindre de nos serveurs?
Heureusement, arrive le management à l'américaine et la méthode du smile. Il va falloir maintenant sourire et accueillir le client, l'accueillir en lui demandant comment il va, sachant qu'on nous précise quand même qu'il ne faut pas s'attendre à devoir raconter sa vie, il ne faut pas répondre quasiment, mais ça va arriver. Il y a des cafés, on parle d'un café dans le 18e où justement certains sont aimables. Donc on exagère un tout petit peu dans cet article-là, mais c'est sûr, le serveur mal poli va finir par disparaître, du fait notamment de ces méthodes de management. Ouais. C'est... Il faut se méfier. La démarche qualité des formations.
Le côté je vous encaisse parce que j'ai fini mon service, mais avec
le
sourire.
Oui, mais vous connaissez le truc à l'américaine, j'ai salut, je m'appelle Pierre, je suis ravi de m'occuper de votre table. Comment ça va aujourd'hui? Ne répondez pas, ça ne l'intéresse pas.
C'est horrible aussi. En même temps, c'est vrai qu'il faut trouver des prédateurs aux serveurs chiants qui font la gueule.
Des prédateurs.
Des prédateurs, oui, comme un peu dans la chaîne alimentaire. Enfin, retrouver des prédateurs pour qu'ils disparaissent.
Enfin, il faut lui mettre un peu gauche. Quand il y a un petit chien qui vous embête, il y en a plutôt. Que de le siam moustique, puma, vous envoyez
un puma ou un lynx, remettre les lynx dans les bars afin d'attaquer les...
mais le serveur très aimable. Donc si vous répondez à la question, salut, je m'appelle Pierre, comment vous allez aujourd'hui, si vous dites alors ce matin ça va plutôt, non mais dis donc,
c'est ça, alors que je te raconte ma vie, ouais.
Le naturel va revenir au galop.
Donc le fameux entre-deux,
oui, il y aura un petit entre-deux.
C'est votre côté macroniste,
pourquoi tout tour, mais c'est quoi ce militantisme de vote matin?
J'adore l'idée que tout le monde avant les élections, tout le monde se suspecte de voter pour tel ou tel. Ah, il est mélanchoniste, il est Macroniste. Il est Dupont et Gnagnin. Il est la Salois. Hein, vous êtes à ce Gnagnin.
La Salois.
Bien.
Voilà. Alors, la risette du succès, c'est le titre de l'article.
La risette du succès. Tito, vous êtes.
Oui.
On part sur quoi?
C'est quoi? Alors, figurez-vous que les Chinois.
Pente glissante.
Les Chinois bouleversent le marché du vin. Et oui, aujourd'hui, en Chine, on est à plus 6,9% d'augmentation. On boit de plus en plus de vin aux Chinois. Alors, on était contents parce qu'avant, c'était la France qui vendait le vin aux Chinois, donc on avait un marché. Mais ils viennent de passer un accord avec le Chili et l'Australie qui ne vont plus payer de taxes de douane. Donc, en France, on avait 16% de douane à payer pour vendre le vin. Et puis les Chiliens et les Australiens ne vont rien payer. Donc on est en train de se faire voler le marché. Et ensuite, ils ont planté des vignes, ils ont appris à faire du vin, ils se sont installés et ils font travailler les femmes dans les vignes. Ça fait un nouveau boulot pour la dame chinoise qui va couper, tailler les vignes, etc. pendant que le mari essaie de le vendre ou reste à la maison. Ce qui fait que la Chine aujourd'hui est sixième pays au monde qui vend du vin maintenant et va dépasser tout le monde parce que dans 10 ans, elle va être sûrement la première importatrice de vin dans le monde entier.
Exportatrice ou importatrice là?
Non, importatrice. Ah bon, ça vient d'un pays d'extérieur ou ça vient d'un pays d'extérieur?
Oui, non, mais je veux dire, là, vous êtes en train de dire qu'ils étaient en train de produire du vin, les Chinois.
Voilà, ils produisent du vin, ouais, ils produisent du vin. Ils ont planté des vignes, ils vont continuer, ils ont du terroir, ils ont du terrain.
Mon vieux, à part votre très très bonne imitation d'une musique d'un restaurant chinois qui vient ouvrirait là.
Avec un Chinese cookie,
le reste n'était pas d'une précision totale. Tito.
Mais enfin, je sais.
Donnez-moi
pas,
votre carte de presse.
Déchirez-la.
Elle était parfaite.
Ah, c'était pas votre carte de presse, c'était votre permis de chasse près du lac Bourdin. Non, mais c'est pas possible. Sur n'importe quel autre pays, je vous laisserais pas faire ça.
Moi, je prends la parole. J'ai un petit zapping d'infos. Ça va être très rapide. Dans un camp de gens du voyage du côté de Nîmes, les gendarmes ont contrôlé ce camp en leur demandant de pas trop rester longtemps. Et ils sont tombés sur qui? Mon Kenji Girac qui était là et qui a fait un petit peu de musique avec eux. Et après, ils sont partis au centre Paris de la mer et les gendarmes m'ont dit il n'y a eu aucun traitement de faveur. On a passé une très très bonne soirée en compagnie de Kenji. Voilà, je voulais le dire.
Ça. Ça ne m'amène rien.
Mais si, c'est un peu joyeux.
Oui. J'aurais aimé que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès. Qui tombe sur Xavier Duchamp.
Bah, il est où, il est caché, où, on ne sait pas.
Il est dans le corps de Dupont-Aignan, c'est la même chose.
Oui, d'accord. Ah, dis donc. Marie Bonisseau pouvait sauver un petit peu cette matinée.
Je ne suis pas sûre. Je voulais juste vous dire qu'on va avoir des nouveaux saints dans le calendrier. Saint Jacinthe et Saint Francisco.
Il n'y était
pas.
Je ne
sais pas encore quand ce sera dans le calendrier.
Pas Saint Jacinthe.
En fait, il va y avoir des nouveaux des canonisations. C'est comme ça qu'on appelle
quand le pape. Il avait déjà sa ville.
Oui, mais c'est vrai.
Oui, bah Saint Jacinthe, on va dire. On va avoir une nouvelle sainte dans le calendrier.
Il y a
Saint
Jacinthe.
On va avoir zéro nouvelle sainte dans le calendrier puisque c'est déjà des saints.
La fille de Giscard, elle s'appelait pas Jacinthe.
Non, c'est Anémone, sa femme.
C'est pour ça qu'il
y a plusieurs. Il avait plein de fleurs à la maison.
Plein de fleurs. Oh là là,
mon petit Giscard.
C'est mon petit fleuriste.
J'avais pas compris, mon petit Giscard d'Estaing. Merci. Qui vous avez au téléphone? Ah, pas Pat pour le tiercé. Pardon, Armel, attends, très vite. Pat a vraiment un tuyau tiercé ce matin. Pat ?
Ouais. Salut, Edouard, ça va bien ?
En direct d'Angers, on t'a réussi à te faire passer un téléphone sous les barreaux ?
Bon, on m'a prêté, ouais.
Vite, alors, donne-nous vite ton conseil tiercé du jour.
9, Aprillon.
Alors, on est sur quelle course ?
Pardon ?
On est sur quelle course ?
On est sur le quintet qui s'appelle le GNT. Tu sais, c'est une des courses qui, toute l'année... les chevaux se rencontrent et à la fin celui qui a marqué le plus de points gagne plus.
Alors d'argent. Moi je ne suis pas spécialiste, je vais au PMU, je dis quoi comme course?
Tu dis monsieur, je voudrais le
monsieur, alors,
le
ou madame, oui.
Ou madame.
Voilà.
Pardon,
ou si
madame,
c'est un animal, oui d'accord. Ouais, bon, enfin oui, bon, ça peut admettons, oui.
Alors on dit le 9 et le 3, le 9 c'est Aprillon.
Atrion.
Et le 3, c'est Best Buissonnet. Et on joue gagnant placé un couplet. Voilà.
Best Buissonnet et Atrion dans le quintet cet après-midi.
Voilà.
Qui court où?
Qui se court à Lyon-Paris aujourd'hui.
Bon, ok. Et on joue combien?
Oh, pas trop. On va jouer 5 et 5.
5 et 5, et on peut gagner combien?
Oh, je ne sais pas. Je ne voudrais pas spéculer aujourd'hui.
Ah, je crois que ça va être du lourd. Allez, faites-le. Essayons. On va voir.
Absolument.
Et si on perd, je vous donne l'adresse de Pat. Le 9 et le 3 dans le quintet. Merci, merci Pat. Gagner de l'argent et plus près de toi.
Salut, Edouard.
7h, 9h, plus près de toi.
On va?
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
On va voter dans 10 jours, enfin pour ceux qui vont aller voter, ce qu'on devrait faire. On a l'impression que c'est la première fois que tout est nouveau, tout beau. Et vous, Grégoire Bizot, vous venez nous dire attention, je connais l'histoire, ça a déjà eu lieu. Rappelez-vous, vous nous ramenez à des réalités qui sont claires. Qu'est-ce qui se passe à quelques jours de l'élection et qu'est-ce que ça vous rappelle, oh Grégoire Bizot ?
De Libération.
De Libération.
Ah, de non. Libération.
Ouais.
L'excellent
Libération.
Là, je vais vous parler d'un phénomène assez inédit, toujours troublant dans la vie quand ça nous arrive, et très inédit dans la vie politique, c'est le phénomène de répétition.
C'est le déjà vu.
C'est le déjà vu.
Déjà vu.
Absolument. Parce que rappelez-vous, en 2012, dans cette campagne présidentielle, exactement au même moment, les commentateurs, vous, moi, dans la rue, ont commenté une flambée mélenchonienne à 18%. Une flambée soudaine, abrupte, et tout d'un coup, on s'est dit, et si il allait arriver au deuxième tour, lui-même le croyant
On en était où alors il y a 5 ans? Il y avait Mélenchon
Alors, il y avait Nicolas Sarkozy.
Il y avait Chaban-Delmas,
et François Hollande qui était quand même bien haut.
Et qui avait gagné à la fin?
C'est Hollande.
Ah bah je ne sais pas, mais je ne suis pas non plus la science infuse.
Ah, on a quand même senti pendant 5 ans qu'il y avait président. Hollande.
J'apprends tous les jours.
Et donc, nous retrouvons 5 ans plus tard avec rebelote, le même phénomène. Nous avons un Jean-Luc Mélenchon qui, en l'espace de quelques semaines et à 10 jours du premier tour, se met à flamber et à espérer pouvoir être au deuxième tour.
J'ai eu une image folle quand vous avez dit à flamber, pardon, j'ai vu une.
C'est une métaphore en fait.
C'est une métaphore littéraire.
C'est comme rebelote, c'est pas on se retrouve avec rebelote. Il y a pas un type qui s'appelle rebelote qui revient. J'ai compris.
Il y a même pas de
Thomas
Baumgart,
voilà. C'est d'un niveau.
Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la cuvée 2017 est exactement la même que la cuvée 2012? Et je vais prendre beaucoup de risques ce matin. Je vais dire oui.
Ah bon.
Et non.
Ah, vous êtes fort.
Ouais,
alors le
moi,
oui,
je suis très risque. Fort.
Donc, ça voudrait dire que vous pensez que Mélenchon.
Alors d'abord, Mélenchon. Oui. Ce qui est très intéressant, le Mélenchon de 2017 est exactement le même que le 2012. D'abord, c'est il a les mêmes qualités extraordinaires de le tribun qu'on retrouve, on l'avait un peu oublié, et tout d'un coup, on se retrouve la bête de scène, celui qui sait haranguer les foules. Alors, avec une petite note moderne, nouveauté, il investit les réseaux sociaux, plus que jamais, il invente l'hologramme, il a une web radio, enfin bref.
Il n'est pas plus doux, lui-même le dit.
Oui. Avant, il a exactement le même programme aussi. Ça, c'est très intéressant. En 5 ans, c'est exactement la même chose. Une 6e République, l'écologie avec un petit prisme pour la mer. Il aime beaucoup la mer, les algues, les usines marémotrices, tout ça.
Sens un petit peu ironique. Hein,
non, pas du tout.
Vous n'aimez pas la mer, donc vous n'êtes pas un homme libre. Vous savez, l'homme libre chérit la mer.
Bon, et en même temps, Edouard, vous avez raison, il y a une vraie nouveauté, c'est que le bretteur est devenu un peu plus bienveillant. Il était un peu castagneur, conflictuel, voire agressif, pour ne pas dire péremptoire. Et là, on a trouvé un Jean-Luc Mélenchon un peu père tranquille, un peu le père de la famille politique, conciliant, évidemment rigolard. Et donc, il s'est adouci, assoupli, en tout cas en apparence. C'est en tout cas comme ça qu'il est apparu pendant les débats télévisés. Bon. Va-t-il s'effondrer? C'est la question maintenant que tout le monde se pose. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va tutoyer le score de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron pour...
Est-ce qu'il va y avoir un second tour Mélenchon, avec quelqu'un d'autre?
Voilà. Alors, ce qui s'était passé en 2012, qu'il faut se rappeler, il avait été la victime d'un phénomène extrêmement puissant qui s'appelle le vote utile. Vous vous rappelez, l'électorat de gauche, en 2012, il n'avait qu'une seule chose en tête, sortir Nicolas Sarkozy.
Il y a un petit capital de sympathie pour François Hollande.
Bien sûr, il y avait un capital de sympathie, il y avait une attente, il y avait quand même un petit enthousiasme.
Une envie d'alternance.
Une grosse envie d'alternance. Et c'est au final, c'est ce qui l'a emporté, et tout le monde s'est reporté sur tout le monde. Une grande partie, en tout cas des électeurs, se sont dit « Non, je ne vais pas prendre de risque, allons sur François Hollande ». Alors on a envie de dire même cause, même effet, puisque là, quand même, le cauchemar du peuple de gauche, c'est l'affiche Le Pen-Fillon au deuxième tour. Et donc il y a le ressort, le ressort du vote utile peut être très présent. Mais la différence, et là, cette différence peut jouer, c'est que Mélenchon est quasiment au même niveau qu'Emmanuel Macron. Enfin, c'est pareil. Quelques mois. Et donc le vote utile, là, le lecteur de gauche peut se dire, mais non, mais... Le vote utile devient Jean-Luc Mélenchon et plus Emmanuel Macron. J'ai plus à me retirer, à voter utile, mais je peux voter conviction, je peux voter ce pour quoi je crois. Et donc, c'est la grande différence. Et ce qui pourrait expliquer que, si en tout cas il continue dans cette dynamique aussi soudaine qu'abrupte, il pourrait...
Il pourrait aller loin. Donc oui et non. Hein, merci Grégoire Bizot.
Il va
s'effondrer ou continuer. J'aime bien. On y croit encore cette idée, le peuple de gauche. Je vois des gens en train de marcher pieds nus comme ça. Vous y croyez encore, ça? Peuple de droite, peuple de gauche?
En tout cas, peuple de gauche, vous savez combien? Il y avait quand même 80 000 personnes à Marseille.
C'est l'idée, le peuple de gauche, comme si ça ne bougeait pas. J'ai l'impression que c'est le vieux monde, un peu tout ça. Le peuple de droite, le peuple de gauche, et encore une autre communauté. Il faut se mélanger, pas avoir des idées, une idée qui appartient à la droite, l'autre à la gauche, l'autre à personne, et la dernière à soi-même, la plus belle. Merci Grégoire Pissot.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes, cotes, cotes. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
7h32, les infos, Marie Bonisseau.
La police de Dortmund en Allemagne a retrouvé une lettre de revendication. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'enquête après les 3 explosions qui ont retenti hier soir près du bus des joueurs de l'équipe de football du Borussia Dortmund. Ça s'est passé au moment où le bus partait au stade pour le match contre l'AS Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Match reporté à ce soir. Un joueur, Marc Bartra, a été blessé au poignet. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. Les enquêteurs se refusent à parler terrorisme pour l'instant. D'après le journal allemand Bild, il s'agirait de bombes artisanales. Et puis l'autre quart de finale aller de Ligue des Champions hier soir. Lui s'est déroulé normalement. La Juventus de Turin a mis 3-0 au Barça. En Suède, le principal suspect de l'attaque au camion Bélier qui a fait 4 morts à Stockholm la semaine dernière a reconnu hier avoir commis un acte terroriste. Cet Ouzbék de 39 ans aux sympathies djihadistes a été inculpé et écroué en attendant son procès. Les États-Unis enquêtent sur une éventuelle complicité de la Russie dans l'attaque chimique contre le village de Khan Cheikhoun en Syrie la semaine dernière. Les analystes sur les blessés ont confirmé qu'il s'agissait bien de gaz sarin d'après les informations du gouvernement turc. Enquête approfondie réclamée aussi à l'ONU dans un nouveau projet de résolution déposé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis hier. La semaine dernière, un premier texte de résolution s'était heurté au veto de la Russie. Après 2 jours de bad buzz, United Airlines finit par s'excuser auprès du passager qui refusait de quitter son avion surbooké. L'homme avait été violemment traîné dehors par les policiers. La scène filmée mais a fait le tour des réseaux sociaux, appel au boycott. United Airlines a même plongé 3% en bourse, ce qui a fini par convaincre le patron de s'excuser, promettant d'arranger les choses car, je cite, « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Et puis pour finir, quel est le prix de la fleur? Eh bien, c'est 2,3 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'en Allemagne, une jeune mannequin roumaine de 18 ans a réussi à récolter en vendant sa virginité aux enchères. C'est un homme d'affaires basé à Hong Kong qui a remporté la mise. L'idée lui serait venue quand elle a vu le film Proposition indécente avec Robert Redford et Demi Moore. Ses parents, qui ont découvert la transaction dans la presse, ont moyennement apprécié. Mais leur fille veut leur offrir une maison et se payer des études à Oxford.
On se serait honoré de ne pas relayer cette information, chère Marie Bonisso.
Je suis désolée.
Oui, merci beaucoup. La météo de Tito.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. Bonjour aujourd'hui. Bonne fête à toutes les Jules et les Julies. Et il fait un soleil total sur toute la France. On dirait le sud. Alors les températures aujourd'hui seront à Agen de 6 à 22, Avignon de 9 à 24, Bordeaux de 7 à 22, Boulogne-sur-Mer de 7 à 11, Corté de 7 à 22 aussi, Évreux de 9 à 18, Laval de 6 à 18, Marseille de 11 à 21, Metz de 7 à 18, Montpellier de 11 à 23, Poitiers de 5 à 19, Saintes de 7 à 21, Tours de 9 à 20 et le lac Léman de 9 à 18. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années.
Mais toujours en été, Jack Souban.
Et toujours en été.
Vous êtes où, Jack?
Athos, 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 viens là, tiens, tiens. Il ne veut pas, là.
Non, non, parce qu'il a peur.
Ah. Et je méfie.
Bah, il a raison.
Pourquoi je fais pas peur, hein. Oh. Athos, il a une petite cuisse de poulet dans la gueule. Oh là. Et je suis avec Maria. Maria qui va. Maria, vous partez pour Senlis, là.
Allô?
Vous partez pour Senlis?
Oui.
Et Senlis, c'est votre petit jardin, votre petit potager.
Oui.
Ah oui, c'est bien. Et Athos, il mange du poulet?
Oui, poulet et riz.
Mais c'est un chien?
Oui, c'est un chien.
Et est-ce qu'il y a des poulets qui mangent du chien?
Non. C'est ce que j'avais vu, non?
C'est dans un seul sens, quoi. C'est la chaîne alimentaire, oui. Et avec du riz. Donc, il va dans des plantations de riz, des terres dans les rizières?
Ah non. Je le fais cuire le riz, le poulet, et après, voilà, il mange.
C'est la même recette que vous faites pour Athos et pour d'autres membres de votre famille, ou c'est vous vous adaptez à chaque membre?
Non, mais je le fais pour lui-même.
Et vous partagez avec lui ce poulet au riz?
Non, je ne partage pas. Je le fais à manger pour lui tout seul.
Il est très gâté?
Ah, bah oui.
Qu'est-ce qu'il a? Même s'il a des mauvaises notes à l'école, il a toujours son poulet au riz?
Oui.
Bah dis donc. Vous l'aimez beaucoup, cet Athos?
Oui, je l'aime beaucoup.
Et vous lui parlez?
Oui, je le parle.
Il vous répond?
Oui, il me répond.
Ah là, c'est plus embêtant. Pardon, hein, je me permets de vous dire. Vous savez, c'est quand on parle à son chien, ça vraiment, ça peut arriver, mais j'ai l'impression que c'est quand le chien répond qu'il faut aller.
Ah oui, il répond, il comprend.
Ah, il comprend. Mais alors, vous l'avez appelé Athos à cause des trois mousquetaires?
Oui, c'est ma petite, c'était ma petite fille, elle est partie. Ma petite fille, donc elle me l'a laissé.
D'accord, elle vous a laissé Athos. À quoi il ressemble, Athos? On peut peut-être le présenter aux auditeurs?
C'est à New York. Oula. Bon, j'ai plus le temps, excusez-moi.
Ah, bah, d'accord. Bon, écoutez, donc je vous embrasse. Et puis, donc, il est disponible sur Internet. Vous le louez pour des événements ?
Non.
D'accord. Donc, mariage, baptême, enterrement. Continuez. Donc, d'accord. Vous pouvez avoir Atos chez vous en soirée. Merci. Il fait un sacré. Très bonne journée. Allez à Senlis sur votre potager. Merci, arrosez-moi bien tout ça parce qu'il n'a pas beaucoup plu. Jacques Souvent ?
Oui.
Vous êtes foutu de moi ?
Pourquoi ?
Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Atos ?
Mais
vous êtes tout, Jacques.
Quoi, vous dites
une caméra cachée.
Oui, un micro caché visible.
C'est un micro caché visible.
Oui. C'est bien pire le micro visible que la caméra
cachée.
Oui,
au revoir Maria.
Au revoir Maria.
Oui, bon, je m'étais avenue du Bel Air. J'ai vu ce petit chien arriver avec une... Parce que la patte de poulet, elle est quand même plus grosse que lui. Donc ça m'a attiré.
Ça vous a... Oui, je vois, vous êtes un hypersensible. Oh.
Je suis sensible, je suis dans la volaille. Je suis dans la volaille ce matin, je vais voir un petit peu.
À tout de suite, Jacques Souvent.
À toutes, me laissez pas tout seul.
Non, jamais. Pâte de poulet, boulevard de Bel Air. Tête de chien avec un drôle d'air. Paris se réveille petit à petit sous les aboiements. Pendant que des potagers sont prêts à accueillir une dame. Une dame qui est laissée à tous seuls. Quant à Aramis, D'Artagnan et Porthos, ils sont là, perdus dans d'autres combats avec leur panache. À tout de suite. Face à Thomas Baumgartner et moi, c'est un système, on a un système qui nous permet d'être face à face à trois, absolument. Ouais. Ouais. Théorie Béton, bonjour.
Bonjour.
V comme vegan, ça paraît aujourd'hui aux éditions Nova.
Aucun lien.
Aucun lien avec nous, pas du tout. voilà, c'est cette nouvelle, on ne peut pas parler de mode d'ailleurs, parce que ce n'est évidemment pas une mode, ce mouvement, c'est cette prise de conscience qui amène de plus en plus de gens à se poser des questions autour de la consommation de la viande, et d'après vous-même, et qui sont dans un mouvement inéluctable vers le renoncement à la nourriture carnée.
Oui, c'est ça, ça veut dire que c'est un bouquin qui est, je pense, un bouquin d'observation sur ce qui me paraît être un phénomène maintenant engagé très très puissamment dans la société, c'est-à-dire que c'est pas l'idée, c'était pas de se poser la question de pourquoi est-ce que les gens deviennent véganes, parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui plein de livres, plein d'articles qui font ce travail-là, mais de se demander plutôt à quoi ressemble cette prise de conscience globale dans toute la société, pas ce qui se passe dans les abattoirs, mais pourquoi est-ce que c'est dans les têtes de tout le monde, ça change dans les médias, les politiciens font de la récup avec ça, etc. Voilà.
Sur les murs, quand j'étais gamin, j'avais lu ceux qui arrêtent de manger de la viande sont les mêmes que ceux qui ont cessé d'être esclavagistes au 19e siècle, ça m'avait frappé. Sur l'évolution des idées qui ont l'air normales pour tout le monde à une époque, et 100 ans après, on se dit mais vous étiez fous, vous en étiez encore là.
Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, oui.
En l'occurrence, c'est ce que vous
moi,
dire.
Moi, j'en mange, hein, mais je donc ça m'intéresse, ce sujet.
Mais il y a peut-être un petit peu de ça, mais c'est pas forcément... Après, je pense qu'il y a plein de gens qui sont actuellement dans un état d'hésitation et qui lisent plein de choses là-dessus, qui entendent plein de choses là-dessus et qui se posent la question d'une remise en question de leur pratique, de leur consommation de viande, etc. Et j'ai pas forcément envie de leur dire vous êtes des esclavagistes et des nazis. Je pense que sinon, on accompagne pas forcément très très bien la prise de conscience quand on se contente comme ça de jeter l'opprobre. Mais
voilà. Vous n'êtes pas dans l'attaque, vous n'êtes pas comme souvent les anti-corrida qui sont beaucoup plus violents que les toreros, que les amateurs de corrida.
Non, ils sont moins violents que les toreros, les anti-corrida quand même.
Ah, mais c'est pas mon point de vue.
Ce que vous dites, Théorie Pton, justement, c'est que le débat public qui peut avoir lieu encore parfois, notamment dans les médias, vous vous servez de, mm-hmm. faites un peu l'histoire de certaines émissions qui ont abordé la question de la viande, du végétarisme et du véganisme.
Tout à fait.
Ce débat-là est presque en retard par rapport aux mentalités. Vous dites, le monde végan est là, on est en train de passer un cap.
Oui, je pense qu'il y a un retard. Alors aujourd'hui, c'est en train de se mettre un petit peu au diapason, mais j'ai l'impression que par rapport au nombre de gens qui se posent cette question-là, on avait encore, il n'y a quand même pas si longtemps dans les médias, par exemple, des diététiciens qui venaient nous expliquer que c'était quasiment cancérigène. Il y avait un effet de retard, mais parce que peut-être que les médias ne sont pas toujours forcément exactement... À l'heure de l'opinion publique
et de ce qui se passe dans la tête des gens. Mais alors, parce que dans les choses qui sont en train de changer, à l'intérieur de ce livre-là, vous en faites la liste, il y a la gastronomie, en fait.
Oui.
Voilà, la question du goût.
Oui.
Un des clichés sur la question du véganisme ou du végétarisme était de dire c'est pas bon. Et en fait, vous êtes en train de dire le végétarisme A7 ou le véganisme mauvais, c'est en train de changer.
Ouais, c'est-à-dire que pendant très longtemps, moi-même, j'étais pas forcément convaincu par ce qui se trouvait. Je trouve d'ailleurs qu'il fallait pas. Il y avait une certaine tendance à être trop, trop indulgent, trop clément avec ce qui se faisait en offre culinaire vegan ou végétarienne, parce que c'était aussi le besoin de solidaire aussi, d'être solidaire avec des restaurants qui proposaient de l'offre vegan. Il fallait forcément dire que tout était super. Bon, je trouve qu'il faut essayer de sortir un petit peu ce discours-là, mais justement, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans la gastronomie, et notamment même dans la gastronomie non issue de milieux militants, non issue de milieux activistes. Il va y avoir beaucoup de nouvelles propositions qui se sont faites. Cette année, il y a quelques mois, il y a le Bocuse d'Or, le prestigieux concours culinaire, qui a fait sa finale sur un thème 100% vegan. Et la France n'a pas gagné le concours, mais elle a gagné la finale, elle a gagné l'assiette vegan. Donc c'est bien.
Alors, il y a un retour évidemment à la nature, une chose positive, un retour aux produits, ouais, aux plantes, au côté omnivore de l'être humain, de moins se concentrer sur la viande. Mais il y a aussi un risque de beaucoup de nourriture industrielle, de protéines qui seraient fabriquées par l'industrie.
Bah, si vous voulez, c'est un reproche qu'on peut difficilement entendre de la part de l'industrie de la viande.
C'est une question
que vous incarnez.
Bien entendu, je touche à la viande.
Vous incarnez, c'est ça, que vous improtéinez carné. Pour le coup, précisément, je pense qu'il y a de meilleures chances de revenir à des formes de production alimentaire à taille humaine et respectueuse des équilibres naturels, etc., par le végétal que par l'industrie de la viande, qui est quand même une industrie de la surproduction.
C'est pas l'un contre l'autre. C'est-à-dire, je parle de riz, je dis pas que ça va remplacer ça. On voit déjà dans les supermarchés, il y a de plus en plus.
Oui, il y a un mouvement de responsabilisation qui engage un peu tout.
Il y a des produits très industriels aussi qui commencent à être proposés.
Ah oui, ça arrive.
Mais vous faites une hypothèse, Théo Ripton, dans votre livre. Oui. Justement, vous dites... plusieurs hypothèses, mais notamment celle-ci. Une coexistence, en fait, des cuisines véganes et traditionnelles, on va dire. En disant que cette coexistence peut bénéficier aussi, aller vers une meilleure qualité,
C'est moins une hypothèse qu'un constat. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu amusé, c'est que je me suis baladé notamment dans des quartiers un petit peu hipsters, où il va y avoir beaucoup de nouveaux restaurants véganes. Et on constate quelque chose d'assez marrant, c'est que dans ces mêmes quartiers, on a l'émergence de nouvelles adresses à viande, mais tout aussi culturellement, connoté un peu hipster, pour une certaine génération, pour certains types de revenus aussi. Et finalement, on va avoir la même clientèle qui va de l'un à l'autre. Alors on a l'impression que c'est un petit peu paradoxal si on considère que ce ne sont pas seulement des restaurants, mais aussi les ambassadeurs de courants d'idées et de modes de consommation. Et en fait, pas tant que ça. Et je pense que justement, c'est en les mettant pas forcément dos à dos qu'on permet à l'un et à l'un et à l'autre, mais surtout à l'un, se développer.
Vous voulez dire, Théo Ribetto, que vous autoriserez, quand vous serez au pouvoir, les gens, ceux qui veulent à manger de la viande ?
Je ne veux pas encore m'engager sur ce point-là.
Ah, voilà, quand même.
Dans l'évolution des mentalités que vous pointez, Théo Ripton, dans V comme vegan, il y a aussi le mot vegan, en fait, a fait beaucoup pour le phénomène lui-même.
Oui, tout à fait. Enfin, il y a ça, c'est quelque chose aussi qui est un petit peu paradoxal à observer, c'est que il fait l'objet d'une, il est entouré d'une espèce de nouvelle popularité, ce mot-là. Ce qui est un petit peu étonnant, parce que par exemple, il désigne au sens strict un quelque chose de plus. J'évite généralement d'employer le terme de radical, parce que j'ai pas envie qu'on caricature les véganes comme des gens radicaux. Ils ne le sont pas, mais comme quelque chose, disons, de plus abouti que le végétarisme. Et pour autant, végétarien a plus une connotation d'ascétisme et de voilà, je pense que si ce livre on l'avait appelé V comme végétarien, il serait un peu moins attirant. Alors que vegan, il y a quelque chose d'un petit peu voilà.
Vous m'avez dit que vous n'êtes pas encore engagé sur l'idée d'interdiction, donc il vaut mieux une police végane ou une police végétarienne qui vient frapper chez nous, vérifier qu'on ne mange pas de viande.
Non, mais il y aura jamais de police végane, de police végétarienne.
Si interdiction, il faudra bien vérifier.
Vous dites que c'est, finalement vous pariez, ou l'hypothèse en tout cas pour revenir sur ce mot-là que vous faites, Théo Ripton, c'est qu'on va vers simplement moins de viande, mais sans que c'est d'une manière naturelle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit un livre militant, sans vouloir d'ailleurs être critique avec les livres militants. C'est très bien les livres militants. Je pense que c'est un livre d'observation et même plutôt d'intuition en fait. Enfin, je sais que c'est un travail que j'ai fait assez subjectivement, qui est nourri par des chiffres, mais qui est vraiment aussi nourri par des impressions. Mmh. Il y a de la première personne, et je pense qu'il fallait un petit peu assumer ça, que c'était aussi mettre cette posture-là qui est la mienne à l'épreuve de ce que je pouvais observer dans les médias, dans la politique, dans les opinions, dans les mœurs, voilà.
Voilà, c'est pour finir, lundi, on va manger l'agneau pascal. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour manger vegan et Pâques sans manger de la viande?
Eh ben, je sais pas.
Les journalistes, c'est pas cuisinier.
C'est ce traditionnel albigeois.
Non, mais alors, je pense que si vous allez sur le, je pense que il me semblait que justement, j'ai vu passer pas mal de choses sur le site de L214 qui a fourni plein de conseils pour pouvoir fêter Pâques sans pour autant se gaver de chocolat au lait. Et le chocolat, c'est pas forcément pour s'accompagner d'autres.
Le chocolat, c'est de la viande. Merde.
Pas de chocolat, pas de viande. Oh, moi, j'en peux plus. Je vais me remettre à boire.
C'est V comme vegan théoriquement aux éditions Nova Mer.
Merci beaucoup.
Nova, plus près de toi.
Édouard Baer.
Ça va, Iman?
Oui, ça va.
Alors, Iman, moi, je te connais depuis longtemps. En ce moment, tu es en vacances à Paris?
Oui.
Et tu vis dans une autre ville?
Oui.
Qui s'appelle comment?
Madrid.
Et c'est bien?
Oui, très bien.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à... Il y a du soleil, il fait chaud, et il y a des arbres.
Oui, il y a des dromadaires.
Non, il n'y a pas de dromadaires.
Non, j'en ai le Mistral, je crois que vous embrouillez peut-être avec une autre ville.
Pourtant, c'est le sud, pour moi le sud, c'est les dromadaires.
Tu connaissais notre poète Jean-Noël Mistral, Iman, ou pas?
Non.
Il n'est pas populaire à Madrid, il n'y a pas des poèmes de Jean-Noël Mistral?
Non, il n'y en a pas à Madrid.
Pourtant, j'ai été faire un spectacle là-bas, mais bon...
Ça n'a pas marqué.
Peut-être qu'il faut qu'il y ait spectacle et public pour que ça marche. Mais tu écouteras son poème tout à l'heure, tu me diras si ça vaut le coup peut-être de le faire venir à Madrid.
D'accord.
Alors, quand je t'ai connu il y a quelques années, tu étais à l'école et tu disais un poème que j'aimais beaucoup qui s'appelle...
Quand je prends mes crayons.
Oui.
C'est une chanson aussi.
C'est une chanson, mais tu me le rediras en poème, là?
D'accord.
Alors, je t'écoute.
Alors, quand je prends mes crayons...
Alors, oui, avec...
Tu sais, quand je prends mes crayons, c'est pour dessiner ma vie. Parfois, c'est coloré, parfois, c'est gris. Quand je prends mes crayons, c'est pour dessiner ma vie. Parfois, ça pleure et parfois, ça rit. Les jours de ma neige, c'est la maison sous la neige. Du feu... Dans la cheminée, un cheval, un jardinier. Les jours de cafard, c'est un gribouillis tout noir. C'est un monstre menaçant, plein de griffes et plein de dents. Les jours de gâteau, c'est des fleurs et des oiseaux. Un soleil à gros rayons, l'arc-en-ciel à papillons. Les jours de fessée, c'est des nuages amassés, des éclairs et des orages. Blanc de peur et vert de rage. Quand je prends mes crayons, c'est pour dessiner ma vie. Parfois, c'est coloré, parfois c'est gris. Quand je prends mes crayons, c'est pour dessiner ma vie. Parfois ça pleure, parfois ça rit.
Merci, Iman.
De rien.
Et aujourd'hui, c'est un jour de quoi?
C'est un jour de soleil.
C'est un jour de quelle couleur?
Jaune.
Si tu prenais tes crayons, tu le dessinerais en jaune?
Oui.
Très bien. Et c'est bien la couleur jaune ou pas?
Oui.
Ça dépend. Ça dépend.
Alors Jean-Noël, vous avez aimé le poème d'Iman?
J'étais transfiguré. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'avais une figure, mais elle était partie ailleurs.
Oui, qui était hideuse à ce moment-là.
Oh tiens.
C'est un compliment.
Hideuse, oui, si on prend dans l'altérité de l'être. Bien sûr,
il faut se méfier de la beauté qui ne serait pas bizarre.
Qui serait lisse.
Bien sûr, la beauté est toujours bizarre. Votre hideur est rassurante.
C'est la dictature de la beauté depuis Platon.
Bien entendu, et la jeunesse comme une valeur alors que c'est simplement un temps à passer. Bien sûr. Vous avez un petit poème aussi à nous dire que Iman et moi pourrions écouter. Et peut-être même les auditeurs vont savoir.
Ça s'appelle « Je regarde mes pieds ».
On écoute « Je regarde mes pieds » ?
Oui.
Bien.
C'est un poème naturaliste sur moi.
C'est vos pieds à vous, hein?
Oui, c'est mes pieds.
Ça peut aller à tous les... Chacun peut regarder les siens?
Oui, tout à fait.
Merci.
Je regarde mes pieds, sur leur voile poussière, leur habit de boue séchée, de ceux qui sont modestes et graves, et pleins de dignité. Je regarde mes pieds et je me dis, bon sang, ça perd l'hypopète. J'ai de la chance d'avoir des pieds si beaux, si tendres, entre les doigts, si pointus, avec des os si compliqués. Je les regarde gigoter, ces petits doigts boudinés de pieds, si mignons, si libres, comme des dauphins avec des ongles. Regarde Jean-Noël, comme ils peuvent se mouvoir, ces pieds. Regarde-les. Oh, comme il touche le sol, en plein dans le sol. Pied, tu es mon Finistère, tu vis là-bas au loin de mes yeux, de tes côtes déchirées, tu marches sans te plaindre, tu supportes, tu me supportes tout le jour. Tant que parfois tu m'intimides, alors je glisse mes doigts sous ta cambrure et là je te chatouille et là, pied, soudain, tu t'agites comme la caille qu'on plonge dans de l'eau bouillante. Je suis pas très fier de cette...
Ah, c'est épatant, hein, c'est...
Moi, alors... j'ai bien aimé. Ah, ouais,
c'est pas fini.
Ah, c'est... Moi, il fait, bah, oui. Ah, ça, c'est pas une très bonne nouvelle que ça soit pas fini.
Alors, pied, quand tu rigoles comme ça, je dis, c'est qui ce petit pied? C'est à qui ce pied-pied?
Ah oui.
Mais oui. C'est toi, c'est les pieds.
C'est Jean-Noël.
C'est les pieds de Jean-Noël.
Jean-Noël.
C'est qui ces pieds-pied?
Alors,
viens, pied, emmène-moi au loin.
Au loin, oui.
Emmène-moi sur des plages ou dans des forêts. Mais jamais, tu m'entends. Jamais, je te le jure.
Voilà.
Je ne mettrai de chaussures.
Calmez-vous.
Pas de carcan d'ivoire, pas de cuir d'animaux cerclant mes ostensoirs.
Oui.
Pas de laisse, de lasso, pas de fer au jabot.
Oui.
Mes pieds, c'est ma liberté.
C'est super. Je suis sans voix là, hein. Iman, on est...
Oui. Bah, moi j'ai très bien aimé, c'est joli.
Merci.
Moi je dirais qu'à la fin il manquait un pied.
C'est excellent ça, c'est bien. Moi j'ai eu peur quand vous êtes allé en forêt, parce que je me suis dit si c'est une forêt de pins, j'ai eu peur pour vos pieds.
Ben, c'est surtout que j'avais besoin de mystère, donc je suis parti dans la forêt, et c'est vrai que ça pouvait être le passage un peu difficile
pour
les gens.
On a besoin de mystère. Est-ce que vous pensez que grâce à ça il y a beaucoup de cornes à la plante de vos pieds, ça vous permet d'être plus aguerri sur des terrains plus dangereux
À force de marcher pieds nus, bien sûr, j'ai 5 cm de cornes.
C'est superbe. On les voit là à l'antenne.
Ce qui fait que c'est au-delà de l'imperméabilité.
Et vous m'avez dit la douche est l'ennemi du genre humain aussi. Repose
oui,
tes pieds. Repose-les. Merci, Man. Tu as trouvé que tu étais comment?
Moi, j'étais étonnée.
Tu étais belle. Tu étais belle.
Mais toi, tu t'es trouvé comment dans le poème?
Magnifique.
Ah bon, bah écoute, alors c'est parfait. C'est bon, merci, à tout de suite.
Près de toi. Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Police de l'info, je vérifie tout ce que se dit Marie Bonisseau. Et si elle a une note à chaque fois. Marie, le journal de 8h.
De gros doutes sur le report du match de foot Dortmund-Monaco en quart de finale aller de Ligue des Champions. Après les 3 explosions près du bus des joueurs allemands hier soir juste avant la rencontre, l'UEFA a décidé de décaler le match à ce soir 18h45 heure allemande. Mais les joueurs allemands sont sous le choc, explique le président du club. Un défenseur, Marc Bartra, est notamment blessé au poignet. Les enquêteurs, eux, sont à la recherche du ou des suspects. Ils ont retrouvé une lettre de revendication. Ils ne parlent pas de terrorisme pour l'instant, mais d'homicide volontaire, avec ce qui semble être des bombes artisanales d'après les informations du journal Bild. L'autre quart de finale aller de Ligue des Champions en football hier soir s'est déroulé, lui, normalement. La Juventus de Turin a mis 3-0 au Barça. Dans le nord de la France, à Grande-Synthe, que faire pour les 1400 migrants sans logement? Après l'incendie du camp lundi soir, la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a promis qu'ils seraient hébergés et que des départs en centre d'accueil dans tout le pays allaient commencer ce mercredi. En Suède, le principal suspect de l'attentat au camion Bélier, qui a fait 4 morts à Stockholm la semaine dernière, a reconnu hier avoir commis un acte terroriste. Cet Ouzbek de 39 ans, aux sympathies djihadistes, a été inculpé et écroué en attendant son procès. Et puis les États-Unis, eux, enquêtent sur une éventuelle complicité de la Russie dans l'attaque chimique contre le village de Khan Cheikhoun en Syrie la semaine dernière. Enquête approfondie réclamée également à l'ONU dans un nouveau projet de résolution déposé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Le vote est prévu ce soir. La semaine dernière, un premier texte s'était heurté au veto de la Russie. Et puis pour finir, ce petit conseil à ceux qui mangent, boivent et qui sait, se cultivent au vernissage. Attention, vous mettez les pieds. Hier soir, au musée d'art moderne de Nice, un monsieur a marché dans un bac à save de Yves Klein. Vous savez, celui qui a donné son nom à un bleu. Alors pour l'œuvre, pas de gros dégâts. On a très vite remis le sable sur la trace de semelle, mais pour le mocassin couvert de pigments bleu pur, l'histoire ne dit pas encore si on a réussi à le rattraper.
C'est grave de relayer cette information.
Je suis absolument désolée, mais il fallait que le monde le sache.
Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous prenez, ce que
je l'ai fait pour Yves Klein.
Dans la tête des gens, ça va germer Vous imaginez la gravité?
Oui, mais moi, je veux savoir si le mocassin va coûter de l'argent maintenant. Il a pris de la valeur s'il a du clin
c'est
sur lui.
Beau. Vous n'avez rien des choses qui réconcilient les Français, genre parler du conflit israélo-palestinien ou de la tauromachie?
8h30, pas on parle de la Palestine.
À tout de suite, merci.
Et combien il y en a alors?
21.
J'ai tout compté. Je les ai toutes comptées. Et il y en a une nouvelle qui arrive.
Ah ouais, encore une nouvelle ligne. Oh bah Lyon, le ciel de Paris est beau matin, avec un beau soleil en plus.
Qu'est-ce
donc
qui
vous
se passe?
Comptez les lignes d'avion comme ça dans le ciel à chaque fois, tous les jours?
Plus ou moins, quand je suis pas occupée, que je suis en train de regarder le ciel. Comme on dit, on regarde ce qui est en haut, hein. Tous les jours.
Tomber dans un trou.
Je suis toujours en train de lever la tête.
Bonjour
là,
madame.
Bonjour.
Il y a deux théories. Il y a des gens qui disent qu'il faut regarder en haut. Et puis, certains terminent dans des trous. Il y a ceux qui regardent en bas. Mais alors, ils peuvent se prendre une branche d'arbre dans le front. Vous regardez
ouais,
plutôt.
Ou le trottoir, en l'occurrence, parce qu'on est au bord du trottoir du boulevard. Du cours de Vincennes.
Oui.
Mais c'est vrai que là, le ciel est beau, il est bien bleu, avec des rayures blanches parce que y a les avions et toutes les lignes vont à droite et à gauche ou de gauche à droite ou en travers et ça fait des beaux dessins.
Et vous le faites pour le plaisir, madame, ou bien vous donnez vos statistiques à la direction aéronautique française? Vous
leur dites... Pas du tout. Moi, je travaille pour une paroisse qui est juste à proximité de là où je suis. Et puis voilà, ça m'arrive d'être dans la cour et de regarder.
C'est joli.
Et de, on regarde le ciel de temps en temps. Hein.
Alors c'est compliqué.
Regarder le sol.
Vous avez raison, madame. C'est compliqué toujours d'expliquer aux fidèles que dans le ciel il y a à la fois Dieu et les avions. Comment on pourrait expliquer ça?
Ben moi, je travaille pour une paroisse qui s'appelle l'Immaculée Conception.
Oui.
Et je vais à mon travail là.
Très bien. Donc l'Immaculée Conception, hein, la naissance du Christ de Marie qui aurait donné naissance sans être Sans faire l'amour, hein, c'est ça
Oui, hein, vaut mieux. On regarde le ciel et en plus, il est de plus en plus magnifique parce que toutes les rayures blanches s'écartent les unes des autres, en fait.
C'est très beau.
Ça fait très beau ce matin, en fait.
Moi, j'ai jamais compris, en fait. Les avions laissent une traînée blanche et la vapeur, c'est quoi? C'est l'essence? C'est quoi?
Non, ça m'étonnerait que ça soit le carburant, ça. Hein.
Non, c'est...
C'est plus le fait de pousser... Et puis bon, l'avion avance, hein, comme on dit.
Ils toussent.
Les moteurs poussent.
Hein. Ils toussent aussi, il y en a qui toussent. Est-ce que vous aimez bien les avions qui font des dessins dans le ciel ou qui écrivent des choses?
Ça arrive, hein, la patrouille de France, elle fait des beaux dessins, comme on dit, mais de couleur bleu-blanc-rouge.
Ils font du bleu-blanc. Et puis un jour, il y a des avions publicitaires qui écrivent des choses. Il y en a aussi qui viennent nous embêter. Il y a des avions qui écrivent « merde à celui qui le lit » ou des trucs, ça c'est pas sympa.
Oui, ou les publicités.
Ou des publicités, oui.
Là, il y en a deux, on dirait qu'ils vont se rentrer dedans là-bas.
Ah ouais, mais bon, il se rentre rarement dedans. Hein.
Si vous deviez prendre un avion, vous iriez où, madame?
À Rome.
Vous iriez à Rome pour le pape?
Ah bah oui, j'y suis déjà allée l'année dernière.
Vous l'avez rencontré?
Oui, une catéchèse.
Il a du charisme, ce pape, hein, il a un beau sourire, oui.
Il a un beau sourire, il parle très bien le français en plus.
Et après, vous vous baladez, vous marchez dans les rues de Rome?
J'étais en plus avec ma marraine.
Ah oui.
Et puis on a visité Rome et on a rigolé avec l'équipe avec qui j'étais. Et
ça lui fait quel âge à ma marraine maintenant?
Elle est plus jeune que moi, ma marraine. Mais... Moi, je prends toujours des jeunes en marraine.
Ah, c'est Fabie. La marraine est plus jeune et vous avez des enfants plus âgés que vous aussi?
J'ai des enfants, oui.
C'est très compliqué.
J'ai trois filles et un garçon, voilà.
Bon, vous expliquerez à Jacques souvent comment vous avez une marraine plus jeune et des enfants plus vieux.
Parce que j'ai choisi d'être baptisée en adulte.
D'accord, je viens de comprendre.
Voilà.
Vous avez eu une illumination un jour?
Oui, il y a quelques années en arrière.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je quitte là où j'étais et qui me l'a fait faire tout doucement en 2 ans, voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Et le baptême s'est passé l'année dernière, à Pâques.
Toi aussi. Maintenant, quitte là où tu es. Regarde les traces dans le ciel. Monte le long de la trace blanche, faisant une corde de fakir ou un escalier vertical. Frappe à la porte de l'avion en plein vol. Le pilote t'ouvrira. Dis ces mots magiques. Umbaunde unga. Ensuite, arrive à Rome. À Rome, demande le 12 place du Vatican. Tu seras reçu. Laisse tout ton argent. Prends ton chéquier au nom de Édouard Baer, B-A-E-R. Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
L'émission avance, ça roule, ça se passe assez bien. J'ai les résultats d'audience, là. 8, 9, j'ai du 34, du 16.
Ah, je viens de la cafétéria, il y a toujours autant de croissants à manger.
C'est vraiment, on est vraiment au top, on pourrait arrêter là, ça serait déjà non. Un gros triomphe.
Par contre,
je fais partie du local administratif et il y a au niveau chiffres, on est en train de monter, on vient de dépasser la barre des 15%.
Merci beaucoup, 15% sur les 19,37. Et on est à moins 12 sur l'inning. Dites-moi, c'est qui Petit Cheval Blanc?
Il faut d'abord l'appeler.
Ah d'accord, alors je vais l'appeler Arnaud parce que je vous fais participer au phénomène de l'actorat. C'est-à-dire vous avez rencontré Arnaud et maintenant il va en direct se transformer en personnage qui va vous être proposé aujourd'hui, un nouveau personnage. Regardez la transformation très étonnante, on est dans les coulisses d'un acteur. Ça y est, Petit Cheval Blanc.
Petit Cheval Blanc. Bonjour les enfants.
Bonjour Petit Cheval Blanc.
Alors
comment bon, ça va?
Eh bien, ça va bien aujourd'hui.
Tu habites à Paris?
J'habite à Paris, effectivement, puis maintenant une dizaine d'années.
Tu es un cheval qui vit en liberté, qui vit dans la nature, qui vit dans un cirque?
J'ai même des hautes responsabilités au sein de l'État, puisque c'est moi qui m'occupe de la sécurité routière et aussi des clips. D'ailleurs, on est désolé parce que pour ces clips trop violents, mais bon, on n'avait pas d'autre idée.
Mais c'est la première fois qu'un cheval a des hautes responsabilités, et dans le monde de la route, et même en général au plus haut niveau de l'État.
Oui, c'est assez rare, c'est vrai.
Tu as fait des études équestres ou des études traditionnelles?
Moi, j'ai commencé, oui, à l'hippodrome avec,
T'as gagné des tiercés d'abord?
Comment?
T'as gagné des tiercés?
Oui, j'ai fait un peu de course, bien sûr, mais ça c'était plutôt pendant l'éducation physique. Mais sinon, j'ai appris les maths, la physique, enfin tout, la poésie, Malraux,
oui.
François Mauriac.
Mais tu es savoyard, tu es suisse?
Je suis, je ne sais pas.
Quels sont tes conseils aux enfants qui aimeraient passer...
Mes parents étaient mangés dans une boucherie.
Ah pardon. Tu donnerais quoi comme conseil aux enfants qui aimeraient passer leur main dans ta jolie crinière?
Je leur dis, touche pas à ça, sinon je vais t'en foutre une.
Ah oui, on n'est pas dans l'échange. Et d'autres conseils?
Si, on est dans l'échange, mais à un moment donné, ça va se faire toucher le cul.
Je comprends bien, Petit Cheval Blanc, tout
petit
un univers.
Petit Cheval Blanc.
Trop mignon, Petit Cheval Blanc. On est content qu'il soit passé le monde de l'enfance. Jack, souvent vous étiez avec nous?
Petit poney. Petit poney.
Qu'est-ce que vous faites dans la rue quand vous parlez pas à des gens, Jack? Vous les cherchez?
Je fouine, mais là j'étais en train de galoper avec vous là.
Là vous étiez avec Petit Cheval Blanc?
Bah Petit Cheval Blanc, j'aime beaucoup.
Et dites-moi, mais comment vous
dans le mauvais temps?
Comment vous arrivez à parler avec des gens aussi intéressants, à nous les présenter, à les rassurer, à leur passer le micro? C'est quoi? Vous avez une technique? Vous les forcez?
C'est une technique internationalement connue.
L'hypnose?
Oui, non, pas d'hypnose, j'observe, je les regarde, je regarde leur regard, je regarde où ils se grattent, je regarde ce qu'ils cherchent dans leur poche, je regarde beaucoup, ça se passe beaucoup avec les yeux. Hein.
Parfois, vous m'appelez après l'émission, vous me dites, il y a quelqu'un que vous avez repéré qui est assis sur un banc, vous approchez doucement, vous l'appelez.
Oui, il y a aussi souvent du hors-champ, ça veut dire des rencontres qui se passent hors micro, comme celle que j'ai faite, c'était vendredi ou jeudi, quelqu'un qui me racontait l'histoire de Topor, qui avait connu Topor, et qui racontait comment on le rencontrait dans les bars, quand on le cherchait dans les bars, on cherchait son rire. Comme ça.
Ouais, Tony Truant. Ouais. Et vous me disiez aussi, les plus grandes douleurs sont muettes, et vous ne pouvez pas nous les passer à la radio.
Oui. Même si on parle sur ce qu'on tait.
Mais pourquoi il est parti à Atmen, là, il y a le jeu sonore? Bon, Atmen, reste là.
On est vraiment beaucoup dans les coulisses.
Atmen,
restez avec nous. Il y a Maman qui est arrivé, le comédien metteur en scène Maman pour le film Bienvenue au Gondwana. Mais il y a le petit jeu sonore.
J'ai des petits problèmes, Edouard, c'est parce que j'ai...
Oui, vous avez des problèmes de santé, vous cherchez vos cheveux. Alors...
C'est quoi ce bruit?
Alors, autour de la table, pour jouer au jeu C'est quoi ce bruit, Petit Cheval Blanc,
bonsoir.
Tito, Atmen, Iman, Thomas Baumgartner, Marie Misset, autour de Charlène, Armel et Eugénie. C'est parti, premier son, on va deviner. Un verre d'eau.
Alors là, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il va falloir deviner la différence entre le premier son et le deuxième son.
Alors là, on remplit quelque chose, on remplit une... Quelqu'un qui était vide et on lui donne de l'intelligence, des idées.
Bah, d'abord, ça se remplit, ensuite ça se vide, il n'y a pas un truc
non, il faut bien écouter le premier son, le deuxième son, il y a une différence très importante.
Iman.
Un verre qui se remplit.
C'est pas la même taille de récipient. Bah, dis donc, tu me fais rêver. Que ce jeu, ça, là.
Je crois... Pardon, j'ai perdu mon personnage. Je crois que c'est que la première personne, quand elle verse l'eau, elle a une chevalière, et la deuxième personne, elle n'a pas de chevalière.
Oui. Ou alors peut-être c'est pas une fois c'est de l'eau, c'est pour moi, et la deuxième fois c'est le vin d'Atmen.
Une fois c'est de l'eau froide, une fois c'est de l'eau chaude.
Bien sûr.
Oh là.
Mais Atmen vous dit je préfère le vin d'ici à l'eau de là.
Oui, oui. Oh. Et vaut mieux être ivre mort qu'ivre bête.
Voilà, excellent. Police des jeux de mots, on y va, la suite. Encore.
Bah alors, ça c'est l'eau chaude, jeu. Justement.
Ah oui,
vous n'avez pas eu les deux.
C'était
fait exprès pour que vous perdiez.
Faites écouter le bruit de l'eau chaude.
Ah bah voilà, c'est brûlant.
Moi quand j'étais très con, ma mère me disait t'as pas inventé l'eau chaude, t'as pas inventé l'eau tiède, on dit, c'est ça.
L'eau chaude.
L'eau tiède. Oui, on voit qu'il y a un peu de fumée. T'entends la différence?
Oui, j'entends.
Tout est question de viscosité.
Ouf. Oh, deuxième son.
C'est pas le jeu de tout le monde.
Un oiseau virtuel qui a mauvaise haleine, à la fin il souffle.
Oui, Iman, t'as une idée?
De la chantilly qui se met dans un verre.
Ce serait chouette, mais non.
C'est un avion supersonique.
Alors, il y a encore question de viscosité. Ce que vous entendez, c'est un phénomène de caléfaction. C'est une bille de nickel incandescente plongée dans l'eau froide.
Ah bah oui.
Et elle est entourée de vapeur, et au moment où la vapeur éclate et l'eau vient en contact avec la bille de nickel, la caléfaction se produit, et ce son-là arrive.
C'est ce qui est fou.
La caléfaction.
J'allais le dire.
Mais oui, c'est
très étonnant. J'allais
vous allez dire quoi exactement?
J'allais dire caléfaction, et j'allais parler de cette bille de nickel. Ouais. C'est vraiment... Alors c'est quand même... C'est un hasard fou, hein.
C'est bien de garder...
Et ben voilà,
bravo Edouard.
Ah non, troisième jeu, non? Un dernier son? Non, Marie Missé.
Plutôt oui.
On va reconnaître. Merci beaucoup, Charlène.
Je vous en prie.
Caléfaction, ne faites pas ça chez vous. Hein.
Caléfaction.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Le bruit de bouche.
Ah, le bruit de la bouche de Arnaud Aymar.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Marie, merci d'être là.
Bah,
bien
rien.
Sûr, dans un premier temps.
Je
et
m'assois.
Dans un deuxième temps, j'ai soif de vos mots.
Alors pourtant, on va redevenir très très terre à terre avec cette revue de presse. On peut commencer par souligner le bon jeu de mots du Canard Enchaîné ce matin. Il passe sous la barre des 10% et se met en pétard. Amon, je vais le fumer, le mélange chichon.
C'est le jeu de mots du Canard Enchaîné. C'est pas une vraie phrase de Amon.
Non. Moins inspiré, l'édito du Figaro du jour est allé chercher un petit peu moins loin. La petite formule, Jean-Luc devient Vladimir Ilitch Mélenchon. On se rappelle que Vladimir Ilitch Ulianov n'était autre que ce facétieux Lénine. Les
Échos
aussi.
Moins qu'avec Staline.
Oui, mais quand même. Les Échos aussi titrent sur la, je cite, dangereuse rhétorique de Jean-Luc Mélenchon. Bref, il y a un nouvel homme à abattre dans le grand jeu que Libé intitule en une femme, trois hommes, six personnalités, six possibilités. Pendant ce temps-là, Amon reprend du poil de la bête. En interview dans Les Échos, il reprend pour parler de Macron la célèbre phrase de Martine Aubry qui la tenait elle-même de sa grand-mère. Quand c'est flou, il y a un loup. Et il ajoute, en l'occurrence, c'est même un loup-garou. Pour Fillon aussi, le seul danger, c'est Macron. Et ça, c'est le Figaro qui nous le dit. Pendant ce temps-là, Libé fait un point sur les quatre favoris et en profite pour plomber un peu plus Amon, au point de révéler que les bookmakers qui prennent les paris au Royaume-Uni ont placé Asselineau devant lui. Alors, il titre sur Marine Le Pen, Libé, en disant « Marine Le Pen reste masquée. La stratégie d'aller sans bruit et de compter surtout sur les faiblesses et les entrecroche-pattes des autres candidats. » Mais les Échos sont allés un petit peu plus loin aujourd'hui. Ils sont allés voir du côté des déçus du FN, ceux qui ont été élus FN, mais ont jeté l'éponge, soit un tiers des effectifs depuis 2014. Il y a par exemple Elisabeth Philippe, ex-élue FN, qui témoigne. Le FN se dit hors système alors qu'il profite du système. C'est un parti comme les autres et même pire. Il y a aussi Fabrice Hény, adjoint au sport à Hayange, qui était censé surveiller les gens tous les jours. Ils cherchaient un agent municipal à surveiller. Ils consultaient même leur page Facebook. Ils se déclarent aussi tous gênés, ces déçus du FN, par l'omniprésence de l'argent dans les gestions des villes FN. Ceux qui discutent par ailleurs sont vite mis au banc. La mère de Patrice Hennie a été harcelée et une militante FN a craché sur sa fille de 3 ans à la sortie de la maternelle.
Mais vous voulez dire que c'est pas bien le FN en fait ?
Alors je ne sais pas. Moi je ne fais que relayer les propos des échos. Une militante FN donc a craché sur sa fille de 3 ans à la sortie de la maternelle et puis on l'a appelé lui tous les jours jusqu'à 2h du matin jusqu'à ce qu'il démissionne. Quand on évoque avec des responsables locaux ou nationaux ces dissidents, les personnes sont toujours attaquées. Il arrivait à mécher en mérie, je ne suis pas psychiatre, mais elle avait quand même des problèmes, etc.
Excusez-moi, mais il y a des attaques contre les fêtes. Il crache sur vos enfants.
Parce que moi, je ne fais que lire. Patrice Hennie, il s'agit d'un ancien élu FN, donne sa conclusion sur la politique et le FN. En introduction de cet article, la gauche et la droite n'écoutent pas le peuple au FN. On passe au stade supérieur, le peuple doit obéir. Ce fameux peuple, hein, pris en otage par quasi tout le monde pendant ces élections, dans les échos encore, Thierry Chopin et Gérard Grünberg en ont marre de cette fausse idée du peuple contre les élites dans ces élections et rappellent à juste titre, mais de quel peuple parle-t-on ? Des perdants de l'ouverture économique et de l'intensification de la concurrence internationale ? Des classes moyennes inquiètes pour leurs enfants ? Des nationaux contre les étrangers ? De quelle élite s'agit-il ? Des 16 millions de Britanniques qui ont voté contre le Brexit sont-ils des élites ? Aux États-Unis, une majorité des Américains a voté pour Clinton. Font-ils aussi partie d'une élite alors très très nombreuse ? La grande majorité des électeurs noirs et hispaniques ont aussi voté pour elle. Est-ce qu'ils ne font pas partie du peuple ? Et ces prétendus candidats anti-système qui défendent le peuple en France n'en font-ils pas aussi partie de ce fameux système ? Et ça me fait penser à cette Versaillaise citée dans Libé hier qui disait « Vous sous-estimez la colère des vrais gens ». Tout ça entre une bijouterie de luxe, un magasin Petit Bateau et un autre The Couples. On a l'impression que les vrais gens vivent bien, disent la journaliste. Reste la question, Edouard, qui sont ces faux gens ?
Mais oui, mais le problème, c'est si vous me dites du mal du Front National et des autres élections, je vais voter pour qui, moi ?
Je ne sais pas.
Forcément, je suis perdu.
Dites-moi, je me retiens depuis le début.
Thomas Baumgartner, comment il est dans la vie, Emmanuel Macron ? Il est sympa ? Non, mais il est sympa dans la vie à table, par exemple.
Dis donc.
Alors, je veux dire, par exemple, il est là.
J'étais
quand
pas chez moi au petit déjeuner.
Non,
ce
mais
matin.
Là, vous prenez un repas. Alors, ces gens, c'est cool. Salut, Emmanuel. Ouais, ça va, Thomas ? Tu veux des œufs ? Ouais, à la coque ? Ou c'est plus compliqué
J'aime
que ça.
Bien ton pull ou des trucs comme ça.
Ouais, c'est plus simple que ça.
Il me l'a pas dit ce matin.
Et dites-moi, Arnaud Aymar.
Bonsoir.
François Fillon, dans les transports, il est comment quand vous êtes en voiture ?
Bon, il s'assoit,
il met sa ceinture.
Il se peigne, souvent il se peigne.
Il vous fait la conversation quand vous conduisez 5-6 heures.
Il parle pendant des heures.
Parce que souvent, je ne sais pas si vous êtes arrivé quand on conduit que sur l'autoroute, il y a quelqu'un à côté, il s'endort et ce n'est pas sympa. Lui, oui.
Il peut s'endormir, mais ça ne me fait rien. Enfin, j'aime bien sa présence, il a vraiment une présence.
Et Marie Missé, Le Pen au tennis, quand vous jouez, tout ça, c'est sympa ou pas ?
Elle n'est pas agressive.
Mais vous êtes tous dans des accointances folles. Je viens de vous piéger, vous êtes fait avoir comme des bleus. Vous êtes proche des politiques, vous êtes là, vous en croquez du système. A tout de suite, je vais tous les démasquer.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
On est en attente.
Je peux le faire ?
Le journal, non.
Pourquoi ?
Ne le faites pas, même, parce que il faut improviser, il faut respecter, c'est un vrai métier.
D'accord.
Ne croyez pas que vous pouvez tout faire, vous pouvez faire beaucoup.
Oui.
Vous pouvez faire même plus que vous imaginez, parce que vous êtes plus grand que vous l'imaginez. Mais là, le journal, c'est bien que ça soit Marie Bonisseau.
Journal, donc ça s'écrit avec un J ?
Oui.
Avec un J.
Vous n'êtes pas en train de meubler parce que Marie est en train de courir dans le coin. Elle s'est trompée, Marie est allée faire le journal TSF Jazz, qui est le studio à côté. Marie, tout va bien ?
Oui, à TSF, ça va très bien.
Donc
ça
vous
y
avez
ils ont
fait le
les
journal,
infos.
D'accord. Et bien alors, on est ravis de les avoir. Il est 8h30.
De gros doutes sur le report du match de foot Dortmund-Monaco en quart de finale à l'aigle de Ligue des Champions. Après les 3 explosions près du bus des joueurs allemands hier soir, juste avant la rencontre, l'UEFA a décidé de décaler le match à ce soir, 18h45 heure locale. Mais les joueurs allemands sont sous le choc, explique le président de Dortmund,
Un défenseur, Marc Bartra, est d'ailleurs blessé au poignet. Du côté de l'enquête, les policiers sont toujours à la recherche du ou des suspects. Ils ont retrouvé une lettre qui revendique ces attaques, faites avec des bombes artisanales, semble-t-il, en tout cas d'après les infos du journal Bild. Au Brésil, la justice ouvre une gigantesque enquête. 108 personnalités, dont 8 ministres et des dizaines de parlementaires visés dans l'affaire Petrobras. C'est le plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil. Il s'agit de pots de vin reçus par le géant pétrolier Petrobras, entreprise publique, pour l'attribution de marchés de construction dans les années 2000. En France, dans le Nord, que faire pour les 1400 migrants sans logement après l'incendie du camp de Grande-Synthe lundi soir? La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a promis hier qu'ils seraient hébergés et que des départs en centre d'accueil dans tout le pays allaient commencer ce mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce soir un projet de résolution pour appeler le régime de Bachar el-Assad à coopérer pour enquêter sur l'attaque chimique de la semaine dernière dans la zone de Khan Cheikhoun en Syrie. La résolution aurait peu de chances d'aboutir à cause du veto de la Russie. De leur côté, tout seuls, les États-Unis ont ouvert une enquête justement sur d'éventuelles complicités de Moscou dans cette attaque au gaz sarin. Et puis, pour finir, un mot de politique. Voilà, sachez que si Emmanuel Macron n'est pas président en 2017, eh bien il ne sera pas non plus député. Le candidat d'En Marche confie aux Parisiens qu'il ne sera plus non plus dans la vie politique, mais dans 20 ans.
Merci beaucoup Marie Bonisseau. Mon invité de 8h31, c'est Michel Journiac. Michel Journiac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Jean-Luc Mélenchon?
Oui,
c'est
exactement.
Un métier. Donc
je suis Jean-Luc Mélenchon.
Donc Michel Journiac, vous êtes Jean-Luc Mélenchon de quelle heure à quelle heure?
Je suis Jean-Luc Mélenchon de 14h à 16h.
De 14h à 16h, vous êtes Mélenchon?
Les hommes politiques sont des comédiens, en fait. C'est des comédiens.
Non, c'est
qui
pas.
Les
ah non, moi je pensais pas en comédien, je pensais en. C'était vous?
Ah.
2 heures par jour? Alors cette fiche a été mal préparée. Vous êtes combien à être Jean-Luc Mélenchon en France aujourd'hui?
Nous sommes une dizaine.
10 personnes qui se relaient. On est loin du monde de l'hologramme, là. On est dans le vrai, dans la réalité virtuelle.
C'est la réalité virtuelle. C'est la virtualisation réelle.
Alors de 14h à 16h, vous êtes Mélenchon, mais ce sont des heures où Jean-Luc Mélenchon intervient peu sur les médias. Est-ce que vous êtes l'un des moins bons Jean-Luc Mélenchon, Michel Journiac?
Non, je suis un très bon Jean-Luc Mélenchon. Je digère, je fais la sieste.
Allez-y. Non, mais allez-y, haranguez-moi. Faites-moi rêver.
Alors oui. Et puis, le débat aujourd'hui.
C'est pas le meilleur. La météo
non,
de Tito.
Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai pas fini mon impro. Mais non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, le Front National est vraiment une.
Temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Alors aujourd'hui, bonne fête aux Jules et aux Julie. Alors les températures seront, il fait soleil total sur toute la France. À Angers de 4 à 19, à Amiens de 8 à 16, à Bordeaux de 7 à 22, Boulogne-sur-Mer de 7 à 11, Dreux de 7 à 18, Limoges de 6 à 21, Marseille de 11 à 21, Metz de 7 à 18, Paris de 8 à 19, Pau de 7 à 21, Saintes de 7 à 21, Vienne de 7 à 21 et sur le lac Titicaca de 6 à 12.
Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Star absolue de la francophonie, honorée dans les plus grandes capitales d'Afrique, de France et d'ailleurs, il sort enfin son film Maman. Ça s'appelle Bienvenue au Gondwana. Et c'est le résumé, c'est cet univers, cette république imaginaire que tu balades à la radio depuis toutes les années, qui est devenu un film.
Oui, c'est la chronique que je fais à Radio France Internationale, RFI, depuis 8 ans maintenant. Oui. J'ai commencé le 19 janvier 2009. Un jour avant l'investiture de Barack Obama. Il a fait ses 2 mandats et un bon Gondwanais, je suis toujours là, moi.
Alors, le Gondwana, pour simplifier, pour les gens qui ne connaîtraient pas ces rubriques légendaires, c'est un pays qui additionne quoi?
Mais qui additionne toutes les tares des pays africains, et pas que africains. Le manque de démocratie, manque de santé, manque de structure, manque de routes, et manque de perspectives d'avenir pour les jeunes. C'est pour ça qu'on voit tous ces migrants qui risquent leur vie pour immigrer dans le soi-disant paradis européen. Et c'est, pour ne pas citer de nom, pour montrer qu'on a tout ça en commun, que, voilà, je dis que ça se passe au Gondwana, et à la tête du Gondwana, il y a président fondateur. Comme ça, tous les Africains peuvent mettre le visage de leur président dessus. Et il n'y a pas que les Africains. Poutine est un bon président gondouanais. Fillon est un bon gondouanais avec ses beaux costumes.
L'Amérique du Sud à une époque.
Alors nous, ça nous manque, la France. Enfin, il y a des visions gondouanaises de tous les pays. Ça nous manque en France d'avoir des films politiques comme ça. C'est extraordinaire, Maman, parce que c'est bon. Il y a toute une génération qu'on connaît pas encore forcément dans d'autres milieux, dans d'autres villes en France. Mais il y a donc Maman qui, si vous le voyez, moi je l'ai croisé à Cotonou. C'est incroyable comme les fous, comme les gens l'aiment. Il y a Michel Gaou dans ton film
qui est énorme star,
qui est principalement à Abidjan, mais qui se balade, qui arrive à Cotonou. À Dakar, partout, les gens sont enchantés
de voir. Et même ici, il y a une semaine, il était ici, on a fait une sortie avec Digbeu Cravate à Barbès.
Oui.
Les caméras de BFM étaient là, mais ils n'en revenaient pas. Les gens leur ont sauté dessus, c'était l'émeute.
C'est fou, hein, comme ça, dans certains milieux, des gens soient des stars et dans d'autres, ils ne soient pas encore connus. Moi, j'ai joué avec Michel Gaou là, récemment dans un film. Oui. C'est un immense acteur.
Oui, il a 30 ans de carrière. Hein. Il ne les fait pas. Son âge est en France CFA, il me dit tout le temps.
Oui. Alors, Maman, le film, ce qui est formidable, c'est qu'il sort à Paris aujourd'hui. Et il sort dans plein d'autres villes en même temps.
Oui, j'ai tenu à ce qu'il sorte et en France le 12 avril et partout en Afrique. Donc dès demain, le 13 avril, je pars le présenter à Niamey, chez moi au Niger, puis au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il sort dans une dizaine de pays.
C'est comment une avant-première à Niamey ou à Cotonou?
C'est la folie parce que les gens, ici, quand on présente un film sur les problèmes en Afrique, les gens sont avec nous, ils rigolent, mais quand ils sortent, ils retrouvent leur confort parisien, ils retrouvent les métros qui marchent, ils partent dans leur appartement, Internet au débit. Mais en Afrique, les gens, ils sortent avec une boule au ventre parce qu'ils retrouvent les mêmes problèmes dehors et puis ils savent que c'est vrai. C'est le rire de résistance a encore un sens en Afrique.
On salue toute la famille Iksa au Niger.
Oui, à Gaïchekou, Inagedakou, en Houssa.
Atmen, vous avez vu le film, c'est notre nouveau.
Oui, j'ai vu le film, un fan de film. J'ai vu le film hier, moi j'ai adoré vraiment, je vous le dis. Je fais juste le pitch quand même pour qu'on résume un tout petit peu ce que j'ai vu.
Ah bah oui.
Une délégation internationale, principalement française, est chargée d'observer l'impartialité des prochaines élections présidentielles dans un territoire africain imaginaire.
Le Gondwana.
Le Gondwana, oui. Voilà.
Alors qui a l'air très réel depuis le temps que c'est sur RFI.
C'est très réel.
Maman nous a apporté des passeports gondouanais, j'ai l'impression que ça existe vraiment.
Oui.
Alors c'est vraiment un pamphlet de politique très très drôle, très truculent, on y apprend des choses. Comment on fait sortir un opposant de prison pour qu'il y ait de la démocratie et qu'il soit l'opposant du président fondateur.
Et dès que les élections finissent, il retourne à la prison. Voilà.
C'est l'opposant choisi par le gouvernement.
Voilà, on lui donne un million de francs pour qu'il fasse sa campagne minablement. Ouais. C'est très 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 bien fait. La délégation française menée par Duléry vient placer ses petits produits, des asperges.
Oui, il a des problèmes dans sa circonscription en France. Donc, voilà. Et donc, il promet à ses électeurs agriculteurs qu'il va aller au Gondwana pour vendre des asperges aux Africains.
Enfin, mon vieux, vous ne vous moquez pas quand même du travail, du développement et de la France dans les pays africains.
Si,
je ne saurais pas le tolérer.
il y va fort. Avec d'autres qui veulent des bureaux, d'autres qui veulent sortir en bois. En fait, une bande de touristes dans la délégation. C'est la question que j'ai envie de poser. On a vraiment l'impression que il y a vraiment un pessimisme de dire que la fatalité de l'Afrique, des gouvernements, c'est la dictature un petit peu. Parce que
tout le message du film, c'est on voit la jeunesse africaine qui prend son destin en main. On les voit. L'opposition, la majorité présidentielle, c'est tous les mêmes. On retrouve la même chose ici. Et les jeunes dans le film, les gens qui iront le voir, avec tous ces mouvements citoyens qu'on a vus au Sénégal, avec le mouvement Yanamar, au Burkina Faso, le ballet citoyen, qui ont chassé les dictateurs qui sont là depuis 30 ans. Et c'est l'espoir que je ressorte de ce film-là, mais j'invente rien, c'est l'actualité qui est là. On l'a vu ici en France avec le mouvement La Nuit Debout, qui ont tellement fait peur aux gens que tous les médias aux ordres leur sont tombés dessus. Et ça veut dire qu'ils touchaient quelque chose. Et c'est cette jeunesse qui prend son avenir, qui ne veut pas qu'on lui confisque son présent, qui est la vedette de ce film-là.
Et qui est plutôt dans une opposition très très active, avec la dictature est très passive, elle est presque endormie.
Elle gère depuis longtemps.
Et puis ça leur va un peu comme ça, mais il y a vraiment un côté Chaplin, un peu comme dans Le Dictateur, où tout d'un coup, les gens à l'extérieur font plus de choses. Moi j'adore ces deux personnages de Garde du Corps qui sont très, comme vous dites, très géopolitiques, qui ont plein de choses à dire sur la politique.
Ils demandent à chaque fois la communauté internationale. C'est un terme qu'on entend, mais c'est qui la communauté internationale?
C'est ça,
tout le film, il demande aux observateurs, c'est qui la communauté internationale?
Est-ce qu'il y a des pays où vous pensez que la sortie du film va
va faire du bruit, va faire bouger les choses, est un peu crainte par les autorités?
Moi, j'espère. En tout cas, il y a une dizaine de pays qui ont programmé le film. Maintenant, j'espère qu'on va dépasser le cap de la première projection et que après la première, ils vont pas venir fermer. Mais on a 10 pays, dont le Congo-Brazzaville, qui est pas un chantre de la démocratie, même au Tchad, avec notre ami Idriss Déby, à qui Marine Le Pen a rendu visite, et au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. Voilà.
Vu la caricature un petit peu, mais très bienveillante et volontaire, tout le monde va se reconnaître, mais personne ne va oser le dire, à mon avis. Ils vont dire c'est le pays d'à côté, ou c'est vraiment la chose qui est faite. Il est fait comme ça un peu, votre film, pour que tout le monde... pour survoler un petit peu...
Oui, pour parler à tout le monde, le public français, il y a Antoine Duléry qui est dedans, qui est assez truculent, Antoine Gouy. Oui. C'est, pour la première fois, on met ensemble l'humour africain et l'humour français. Oui. Moi, ça fait 20 ans que je vis en France, donc je suis français, personne ne va me l'enlever. Mais les Africains qui vivent ici en France, les Français qui vivent là-bas, il y a cet amour qu'on a pour les deux pays. C'est juste les hommes politiques qui veulent nous diviser. On fait des enfants entre les Africains, les Français. Bref, c'est la face éclairée de la France.
Mais vous avez ouvert la brèche sur un humour politique. Hein. Je pense qu'il y a un nouveau niveau maintenant de comédie. On va pouvoir faire rire des politiques.
Et puis j'ai l'impression aussi que par rapport à 10-15 ans, le jeu, le type d'humour est un peu le même. J'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans encore, l'humour à Abidjan ou les sitcoms africains étaient très différents en style de jeu et en tonalité. Et maintenant, moi j'ai été voir, quand j'ai rencontré Michel Gohou, j'étais voir beaucoup de vidéos sur Internet. Et puis je connais votre travail. Et c'est vraiment des choses qui font rire aussi un public qui n'est pas forcément lié à l'Afrique.
Oui, la mondialisation touche ça. Grâce aux réseaux sociaux maintenant, sur YouTube, sur Dailymotion, Facebook, on voit toutes les vidéos. Les jeunes, aujourd'hui à l'école, utilisent des mots tirés des chansons de Magic System, des sketchs de Michel Gohou. Et en Afrique, pareil, les gens voient, ils regardent Canal+, le Petit Journal, toutes les vidéos. Donc c'est vraiment...
Il y a un problème, Maman. Oui. Vous voyez, j'aimerais bien sortir des stéréotypes. J'aimerais bien dire que les choses sont plus comme avant, que l'Afrique, c'est pas ceci, et la France, cela. Le problème, c'est que Michel Gohou, le comédien ivoirien de votre film, il n'est pas réveillé alors qu'on devait l'appeler la Sturcy pour l'avoir. Comment voulez-vous que je n'en conclue pas des choses sur la paresse, sur un continent endormi? Comment voulez-vous que je ne sois pas dans des vieux réflexes?
Gohou, si tu nous entends, tu me mets la honte aujourd'hui.
Moi, je suis...
Tu as versé ma figure par terre aujourd'hui.
Non, vraiment, il nous avait fait des impros extraordinaires là, quand j'étais avec le tournage en Sud-Afrique sur la colère et sur tout ça. Alors, Michel Gohou d'or, on met un disque ou de la publicité, on voit si ça le réveille. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
Vous avez vu, Maman, comme c'est bien achalandé cette émission. On a deux gigots, on a le gigot Carrefour, le gigot Picard.
Oui, je préfère le gigot de la viande du Niger.
D'accord, ça c'est le gigot du Niger.
Le gigot d'agneau du Niger, c'est la meilleure viande au monde. En plus, comme il fait super chaud et que les congélateurs ne marchent pas très bien, c'est la viande toute fraîche.
D'accord, donc je ne vous envoie pas un gigot Picard. Vous ne voulez pas me débarrasser d'une ou deux pubs que vous emporteriez sur votre tournée?
Si, je vais l'amener pour la mettre à la poubelle là dehors.
Merci beaucoup. Merci, Maman. Il faut aller voir Bienvenue au Gondwana, ça sort aujourd'hui en France.
En pleine campagne électorale française.
Et puis si vous êtes sur les routes, allez le voir à Abidjan, Niamey, Cotonou, Dakar, Ouaga, Bobo Dioulasso, où vous voulez, mais en France aussi. Salut Maman, bonne route. Merci
et allez au cinéma.
Voilà.
Oh oui. Keep on coming. Yes. Ouf. Continue.
Clairance.
Savon. Brosse.
Onomatopée.
Serviette. Savonne.
Tu fais mes chocos.
Savonne. Brosse, frotte.
Je te commande douche.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je faisais un truc d'hygiène et tout ça, de conseil d'hygiène. Et Arnaud et Marc partent complètement ailleurs. Arnaud, ça m'a fait de la peine que vous... Dites-moi, alors qu'est-ce qu'on devait faire là?
Jack Souvent.
Oui, Jack Souvent.
Oui, c'est encore une histoire de savon et de hammam.
Oui, parce que vous m'avez dit que vous aimez bien les ambiances hammam dans l'émission, Jacques, je le fais pour vous.
Moi, je suis rue des Pyrénées, qui est la partie un peu en pente. Je suis avec Céline Curiole et Marc Melki. Et Céline Curiole, vous venez de vous relever à l'invitation de Marc. Vous avez pris la place un peu d'un sans-abri dans une station Autolib.
Oui, c'est ça. Je me suis allongée par terre avec des couvertures pour... essayer de poser en quelque sorte et vivre cette expérience que peut être le fait de dormir dehors. Voilà.
Vous êtes resté combien de temps là allongé ?
Je sais pas, 20 minutes je pense.
Oui.
C'est pas très long, mais ça semble assez long en fait quand on est par terre.
Et est-ce qu'on peut vraiment ressentir ce que peut être la vie d'un sans-abri en 10 minutes ?
Ah non, certainement pas toute la vie d'un sans-abri, ce serait très déplacé de dire ça, mais en tout cas physiquement, c'est assez. Enfin, moi, j'avais jamais fait l'expérience d'essayer de dormir dans une station Autolib. Donc ça, enfin, on prend quand même conscience des sensations qu'on peut avoir, qui sont modifiées, de l'inconfort que ça peut représenter, du bruit, d'une très grande sensation de vulnérabilité aussi, puisque vraiment avoir son visage à ras du sol, c'est quand même pas tout. Enfin voilà, ça rend assez vulnérable. Et puis on prend conscience des regards qui peuvent être posés sur vous. Et puis quand même, on se rend compte que être à dormir par terre, c'est quand même en soi, physiquement et moralement, c'est quand même assez dégradant.
On parlait de Louis tout à l'heure. Louis est très très exacerbé.
C'est ce qui m'a étonné, c'est que j'entends. Alors c'est peut-être le fait de changer de position en étant dans la rue, mais je trouvais que les bruits semblaient beaucoup plus forts et beaucoup plus comme s'ils me surplombaient un petit peu et qui donnaient l'impression d'être plus menaçants aussi et plus forts. Et puis après on se concentre sur des petites choses peut-être plus anodines pour essayer de se détendre. J'imagine, hein, pour essayer quand même de dormir dans un environnement qui n'est absolument pas propice à ça.
Donc là, en fait, c'est une expérience qui est faite avec le photographe Marc Melki pour sensibiliser un peu les gens. Ça s'appelle « Si c'était vous », c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Mais il est là. Hein.
Il est là, je vous le passe.
Bon.
Marc Melki, la démarche.
Oui.
Bonjour Marc Melki.
Bonjour Edouard, Baer. J'ai lancé cette action en 2014. J'ai commencé par faire des photos de familles de migrants, principalement des Roms venus d'Europe de l'Est, à Bastille, qui ont été publiés dans Libération. Puis après, un article de Glucksmann, d'André Glucksmann, qui disait que 93% des Français ne supportait pas les Roms ou ne trouvait que les Roms ne s'intégraient pas, oui. A dit qu'il faisait partie des 7% de Français qui pensent totalement le contraire. Donc, j'ai un peu suivi son raisonnement. Je me suis dit qu'il fallait rassembler un maximum de monde, des personnalités ou des anonymes, de les faire poser dans la même position que vivent beaucoup de ces familles.
L'idée, c'est qu'on ne s'habitue, c'est d'empêcher qu'on finisse par s'habituer à ce paysage de gens qui dorment dans la rue comme si c'était une chose normale.
Voilà, exactement.
D'empêcher la banalisation et l'habitude.
Voilà, tout à fait.
Merci Marc Melki.
Eh bien, c'était... Voilà.
Et bravo pour...
Nadine Intramuros et l'action continue. Il y aura une exposition le 17 mai dans un bistrot culturel qui s'appelle le 61. Voilà.
Merci pour votre travail, Marc.
Si c'était vous.
Salut, si c'était vous.
Si c'était vous,
Edouard Baer. 7h, 9h, plus près de toi.
Ammoniacal.
Oui.
Pendant toute l'émission, tu es resté dans un tout petit coin, tapis. Oui.
Sous le tapis.
Tapis sous le tapis, tu as eu peur ? Oui. Tu pensais que l'émission, c'était juste toi et tu n'aimes pas quand il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'agitation ?
Non.
Tu aimes le monde du silence où on prend son temps, être apprivoisé ?
Dans l'eau.
Dans l'eau. On rappelle un petit peu ton apparence qui fait que tu es un être à part ?
Ben, je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon.
Alors, ce qui est compliqué, c'est évidemment, il y a de l'animal en toi, il y a de l'objet utilitaire, et puis il y a trois moitiés, ce qui est lourd à porter.
C'est lourd à porter.
Ouais. Tu as un petit générique, un jingle ?
Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Ammoniacal.
T'as un petit message de fin d'émission ?
Oui, je voulais dire que à tous les gens qui nous écoutent,
ouais,
que il faut faire en sorte,
ouais,
qu'un jour, eh bien, tous les gens du monde pouvaient avoir une idée qui puisse être une idée qui soit la même, mais différente pour garder sa personnalité, eh bien, si un jour tous ces gens pouvaient faire ce que je viens de dire, eh bien, bon.
Le ciel t'entend, Ammoniacal, et les politiques aussi aveugles du cœur et du cul. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. À demain, au bonheur de vous retrouver. Voici à qui s'avance belle les 30 glorieuses. À tout de suite.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.